autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en chemin, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous demander pourquoi pensons-nous en marchant et comment marchons-nous en pensant ? Quel rapport entre ces trois caractéristiques de notre espèce humaine ? Penser, parler et marcher debout sur nos deux jambes. La marche favoriserait-elle la pensée ? Comment notre cerveau contrôle-t-il à la fois les mouvements des jambes, l'équilibre et la posture du corps ? Pourquoi tant de sages, tant de penseurs ont de tout temps philosophé en marchant ? Autant de questions soulevées pas à pas et en cheminant ensemble par le philosophe Roger Paul Droit et le neurologue Yves Agide, nos deux invités pour cet essai écrit à quatre mains sur quatre pieds et avec leurs deux cerveaux, je marche donc je pense. Aux éditions Albin Michel, autour de la question pourquoi marcher nous fait penser, bienvenue dans les pas du philosophe Søren Kierkegaard.
Ne perdez surtout pas l'envie de marcher. Moi-même, chaque jour, la marche me procure mon bien-être quotidien et m'éloigne de la maladie. Mes meilleures pensées sont venues en marchant. Et je ne connais aucune pensée si lourde qu'on ne puisse s'en éloigner à grands pas.
Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Bonjour Yves Agide.
Bonjour.
Merci d'avoir fait halte en direct dans notre studio. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ensemble, tous les deux. Le philosophe de renommée internationale et écrivain que vous êtes, Roger Paul Droit, et le professeur de neurologie, de biologie cellulaire que vous êtes, Yves Agide, cofondateur de l'Institut du cerveau et spécialiste de l'étude et du traitement des maladies neurodégénératives. Autour donc de votre essai commun intitulé « Je marche, donc je pense », super formule un peu détournée de Descartes, car dès votre première promenade, votre essai se décline, hein, je le souligne, en 8 promenades, déambulations et réflexions sur plusieurs saisons. Dès votre première promenade, vous vous interrogez tous les deux pour savoir quelle est la meilleure formule, qui pense marche ou qui marche pense, une vraie question à la fois philosophique et scientifique sur ce propre de l'homme qui est de penser, de parler et de marcher debout. Alors, qui pense marche, c'est plutôt le philosophe que vous êtes, Roger Paul Droit, qui pense en marchant.
Mais ce qu'on vient d'entendre de Kierkegaard le confirmerait, mes meilleures pensées viennent en marchant et il était... à travers les rues de Copenhague, un très grand promeneur, puisque des heures et des heures et des heures, il déambulait dans les rues, au point que on se demandait quand il écrivait. Beaucoup, voyant des livres de Kierkegaard, ne faisaient pas le rapport avec ce personnage qui déambulait tout le temps dans les rues. Il écrivait la nuit, et je pense qu'il continuait à avancer dans les idées comme toute la journée, il avait avancé dans les rues. Il y a dans un rapport, je crois, profond et au cœur de notre livre, entre ces trois caractéristiques que vous venez de rappeler. Nous sommes la seule espèce vivante à faire trois choses en même temps. Nous déplacer debout sur nos deux jambes, parler de manière un langage articulé que nous devons apprendre et qui n'est donc pas du tout un code inné. Et enfin, penser grâce à ce langage ou avec lui par notions, par concepts et par figures abstraites. D'autres espèces vivantes pensent, mais pas de cette manière-là. Et ces trois choses qui caractérisent l'humanité, elles ont en commun de se situer à l'intérieur de notre boîte crânienne, d'être liées à des processus de notre cerveau. Et donc voilà, c'est ce que Yves Agide et moi avons tenté de faire, nous interroger tout en nous promenant, en marchant, en parlant et en pensant sur ce que sont la marche, la pensée, la parole et leur connexion dans notre boîte crânienne.
Yves Agide, vous serez plutôt qui marche pense, hein, pour le neurologue que vous êtes, parce qu'on peut se demander, vous le dites bien d'ailleurs, est-ce que la marche, ça se passe avec les pieds ou ça ne se passe pas plutôt dans le cerveau ?
Ah non, 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 vous n'y êtes pas du tout. On ne marche pas avec ses pieds, on marche avec son cerveau.
Ah voilà,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, parce que
on
c'est
marche avec son cerveau.
Et on marche avec son cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, vous savez, c'est vous. Moi, je suis mon cerveau aussi. Le cerveau commande. Ceci étant, la marche, il faut comprendre ce que c'est. Généralement, les gens ne comprennent pas. Tu dis, on marche, bon, ça paraît tout simple. Mm-hmm. En fait, c'est très compliqué. Hein,
Pourquoi ? Parce que c'est une question d'équilibre, c'est une question de... Enfin, c'est plus compliqué que ce qu'on pense, bien plus compliqué que mettre un pied devant l'autre.
Oui, c'est voilà. Alors, d'abord, c'est la locomotion, on avance avec les pieds, ce qui n'est pas simple, hein, parce que on marche pas comme des robots, comme ça, c'est souple, les segments de membres s'alignent les uns sur les autres de manière harmonieuse, mais pour marcher, vous êtes en déséquilibre, en permanence, donc il faut rattraper l'équilibre, et pour rattraper l'équilibre, il faut adapter une posture en même temps. Donc ça fait trois fonctions qui sont coordonnées, qui sont gérées par le cerveau, par des régions particulières du cerveau. Et là, je crois qu'il faut bien distinguer la marche quand, par exemple, vous allez acheter du pain à la boulangerie, à ce moment-là, vous marchez, puis vous allez acheter le pain, et votre conscience, votre attention est focalisée sur ce que vous devez faire. Mm-hmm. C'est pas tout à fait ce que nous avons fait avec Roger Paul, c'est bien des promenades, il s'agit, c'est-à-dire, on part sans vraiment un but déterminé à l'avance. Et à ce moment-là... Je suis d'accord avec, évidemment, ce que venait de dire Roger Paul, mais il y a une autre interprétation qui est justement de se dire que quand on marche, on pense mieux, on pense plus, on pense éventuellement différemment. Et aussi bien pour la marche de la pensée telle que le pressent Roger Paul et moi, la marche qui facilite la pensée, nous avons essayé de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et au fond, on s'est aperçu de manière assez spectaculaire que au fond, il y a un principe qui est commun.
Entre la marche et la pensée,
voilà.
C'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette émission à travers votre ouvrage Je marche, donc je marche. Donc je pense, c'est aussi, vous l'avez dit, une conversation, une promenade, mais une conversation entre un penseur plus littéraire et un scientifique, un biologiste. C'est aussi une conversation entre deux mondes qui, en marchant, en parlant, en pensant, peuvent se réunir, communiquer ensemble, peut-être bien mieux qu'autrement, et très simplement pour nous lecteurs en tout cas.
C'est en tout cas ce que nous avons essayé, parce que les philosophes ou les penseurs en général, et puis les chercheurs scientifiques dans les différentes disciplines, vivent quand même dans des mondes globalement séparés, avec du côté des littéraires ou des philosophes, la plupart du temps, une ignorance extraordinairement crasse des recherches scientifiques. C'était Snow, déjà dans La double culture, qui disait, essayait de demander à n'importe qui fait des études du littéraire quel est le second principe de la thermodynamique et à quoi ça sert. Et vous verrez que c'est catastrophique. Bon. Et puis de l'autre côté, du côté des scientifiques, une sorte d'indifférence ou parfois de léger mépris qui leur fait penser que ce sont des jongleries décoratives au mieux, ou en tout cas un univers qui n'a pas le rapport direct avec l'efficacité de la recherche et la découverte. Et je crois que c'est faux parce qu'il y a bien évidemment des questions philosophiques qui sont au cœur des laboratoires, même si les scientifiques souvent ne les explorent pas. Et il y a pour les philosophes mille choses, dès lors qu'ils veulent sortir un peu de leur autisme, mille choses à apprendre, à découvrir et peut-être à questionner chez les chercheurs.
Autour de cette question qui pense marche et qui marche pense, et de cet ouvrage Marche, donc je pense, très joliment, très malicieusement illustré par vous, Yves Agide. Vous n'êtes pas que neurologue, vous avez un petit trait de crayon avec des croquis très simples et tordants qui nous aident justement à penser comment ça marche, la marche dans notre corps humain. On va d'abord le demander à une préhistorienne. Depuis quand marche-t-on ? Depuis quand les humains et leurs ancêtres préhumains se sont mis debout pour marcher, pour avancer et donc pour penser et pour parler ? Piste de réponse et de réflexion de la préhistorienne Sophie Archambault de Beaune, qui était récemment notre invitée.
Alors déjà, je pense à la bipédie, qui est vraiment le propre des hominines, puisque c'est comme ça qu'on les distingue des grands singes, parce qu'ils ont la station debout et la bipédie.
Depuis quand ?
Si tout maille est bipède, ça fait 7 millions d'années. Mais il y a quand même une grosse controverse à ce sujet-là. Sinon, après, on a d'autres, on a quelques bipèdes à partir de 6-7 millions d'années avérées. Deuxième idée, c'est le fait que les hommes du paléolithique supérieur, dont on connaît très bien le squelette, étaient extrêmement grands. Ils étaient plus grands que nous, en moyenne. On a retrouvé un squelette de 1,88 m dans une des grottes de Grimaldi.
Et les surtout, premiers Homo sapiens.
Les Homo sapiens européens. D'autant qu'ils étaient non seulement très grands, mais très filiformes, avec de grandes jambes. Et on a comparé leur physique aux marcheurs d'Afrique de l'Est, aux populations Maasai, qui sont des gens très très élancés, très grands. Vous avez peut-être déjà vu des photos. Et ce sont des gens qui marchent, qui, dans des paysages ouverts, dans la steppe, ils marchent énormément. Et ils ont un physique très élancé, magnifique, d'ailleurs de très belles silhouettes. On a comparé les hommes du paléolithique supérieur à ces gens-là. Et après, les hommes ont réduit, leur taille s'est réduite au néolithique. Ils devaient moins marcher, mais surtout, ils ont changé d'alimentation. Ils sont passés à une alimentation à base de céréales. Et puis après, ils ont commencé à développer l'élevage, à manger de la viande grasse, et donc à développer des maladies cardiovasculaires, etc. etc. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à retrouver la taille de nos ancêtres du paléolithique supérieur.
Yves Agide, vous voulez réagir à ce que vient de dire la préhistorienne Sophie de Beaune ?
Non, mais je pense que tout ça est vrai, c'est-à-dire que le chiffre de 7 millions, c'est intéressant. C'est vraiment le début d'Homo sapiens. Ce n'est pas le début d'Homo sapiens sapiens.
Exactement.
Hein, qui est plus récent, probablement 200 000 ans environ. Et le plus récent, vraiment, c'est depuis 30 000 ans que nous existons vraiment. Mais effectivement, la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir comment ça se fait alors que nous sommes issus d'animaux très antérieurs qui marchaient à quatre pattes ou qui marchaient qui grimpaient dans les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que l'homme est descendu des arbres et qu'il a voulu se protéger des prédateurs et au milieu de la savane, il a fallu qu'il se mette debout? C'est ce qui est dit parfois. Une autre interprétation est que, en fait, simplement, par mutations successives, selon les lois de la sélection dite de Darwin, des mutations sont apparues qui ont entraîné des capacités mentales, un grossissement du cerveau et de certaines fonctions qui lui ont permis de simplement de tenir debout.
Parce que dans quel sens ça marche, la bipédie et la marche, justement? Est-ce que le gros cerveau nous a obligés à être debout et à marcher, ou est-ce que c'est le fait de se mettre debout qui nous a fait développer?
Si je vous pose la question, vous me direz que vous ne savez pas. Et en fait, quand on ne peut pas vraiment savoir,
c'est comme l'œuf
et
la poule. Hein.
On garde, voilà, c'est l'œuf et la poule, et on garde cette hypothèse bien en arrière, quoi.
Est-ce que ça s'apprend, la marche? Revenons-en maintenant, non pas à la grande évolution humaine, mais à nous. On voit bien les petits humains qui commencent par se mettre debout, parfois difficilement, d'abord à quatre pattes, hein, puis ensuite debout. Est-ce que ça s'apprend, la marche, Yves Agide?
Je fais une petite remarque, c'est que nous sommes les seuls à marcher parmi les mammifères, mais il y a quand même des animaux qui arrivent à se mettre debout de temps en temps. Mm-hmm. Et puis il y a les oiseaux qui arrivent à tenir debout. Or, les oiseaux ont un tout petit cerveau, nous on a un énorme cerveau par rapport à eux. Et ils ont dans leur cerveau des structures qui sont particulièrement développées, qui sont celles de l'équilibre. Et nous, on a un équilibre, mais qui n'est pas aussi développé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sauter sur un fil électrique à 10 mètres de haut.
Non, j'y arrive pas.
On n'y arriverait pas.
Et à me tenir sur une jambe comme un flamant rose, pas très longtemps non plus.
On n'y arriverait pas. Voilà. Oui, votre question, c'était...
Ma question, c'était, est-ce que ça s'apprend?
Mais oui, bien sûr. Ben, vous avez regardé les bébés. Un bébé commence à se lever à 10 mois, un an, il commence à faire les tout premiers pas avant moi, et il marche, vous avez vu, de manière déséquilibrée, incoordonnée, avec des grandes oscillations. Ça, c'est probablement parce que le cervelet n'est pas encore complètement développé. Le cervelet étant la partie du cerveau qui est à l'arrière du cerveau, qui contribue effectivement à l'équilibre et à la coordination des mouvements. Et un bébé, et ben, si vous voulez, quand quelqu'un, par exemple, a une intoxication alcoolique aiguë, vous en avez peut-être vu de temps en temps des types qui s'accrochent au réverbère dans la rue, ils oscillent avec ces oscillations. C'est de la titubation. Ben, c'est un peu la même chose. Et à partir de l'âge de un an, le bébé apprend à marcher de mieux en mieux, sa marche s'améliore, jusqu'à l'âge adulte, où même certains adultes finissent par prendre des postures pour se donner des airs. Mais enfin, ça, c'est autre chose.
Et si on suit, si on reste sur ce déroulé de la vie, la marche se fait plus difficilement quand on vieillit. C'est même parfois un des symptômes.
Le vieillissement, c'est caractérisé par un affaiblissement de toutes les fonctions de l'organisme avec le temps, en particulier du cerveau, de diverses parties du cerveau, et notamment ce vieillissement qui se fait en pièces détachées et qui fait que, effectivement, chez les personnes âgées, pour le dire en toute simplicité, le plus grand problème du vieillissement, c'est les troubles de la marche et la chute. La chute, parfois des troubles de la posture. Il y a d'autres choses, des troubles de mémoire, il y a les dépressions. Mais c'est surtout la chute. Et pourtant, on n'en parle pas.
C'est vrai. Est-ce que c'est aussi parce que c'est lié, vous disiez, on ne marche pas avec ses pieds, on marche avec son cerveau. C'est lié à ça ?
Alors, il y a deux choses. Ouais. Il peut y avoir des dysfonctionnements du reste du corps. Des membres, par exemple, en principe, c'est ce qu'on appelle des maladies orthopédiques. Si vous avez une grosse arthrose du genou, vous avez des douleurs, vous marchez et vous boitez, d'ailleurs. Pour le neurologue, il faut éliminer ça rapidement. Mm-hmm. Mais sans ça, effectivement, vous pouvez avoir des dysfonctionnements au cours du vieillissement ou dans certaines maladies, diverses parties du système nerveux qui sont altérées, soit dans la partie la plus noble du cerveau, en avant, tout à fait en avant, dans le cortex frontal, ici, soit dans des parties au milieu du cerveau, soit dans le tronc cérébral, soit dans la moelle épinière, soit dans les nerfs périphériques. Ça, c'est tout le talent du neurologue, qui est généralement un très bon sémiologiste, pour faire tout de suite le diagnostic de la localisation des lésions.
Et pour faire le lien, effectivement, entre la marche qui se passe dans le cerveau et non pas seulement dans les pieds. Vous l'avez dit, on est toujours en équilibre quand on marche. La marche rythme nos pensées, on va y venir, on peut dire ça comme ça aussi. Autour de la question pourquoi marcher nous fait penser, je propose un nouvel éclairage sur le rythme de la marche, justement, et de notre cerveau qui pense, avec cette question soulevée par la grande spécialiste du blob et des fourmis, la chercheuse Audrey Dussutour.
Bonjour. On sait que pendant le sommeil, en fait, on a des rythmes oscillatoires dans le cerveau qui sont très typiques du sommeil. Et est-ce que finalement, on peut identifier, en regardant les rythmes du cerveau, quelqu'un qui marche ? Est-ce qu'on rentre dans des rythmes particuliers ? Parce qu'on sait que la marche, souvent, ça nous aide à méditer. C'est vrai, on réfléchit beaucoup quand on marche. Du coup, je me demande si le cerveau a un rythme identifiable à la marche.
Votre réponse, Yves Agide, est-ce qu'on sait ça ?
On sait très bien les structures qui sont impliquées dans la marche, dans la bipédie, en avançant les pieds, parce qu'on connaît les structures cérébrales, on ne va pas les dire ici, ce serait un peu compliqué, mais on les décrit assez simplement dans le bouquin.
Absolument, très simplement.
Il y a des bouts du cerveau qui servent à avancer les pieds l'un devant l'autre, il y a d'autres bouts du cerveau qui servent à garder l'équilibre, et un troisième qui sert à adapter la posture pour garder l'équilibre et donc marcher droit. Dans la marche, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est les structures qui sont les plus massives chez les oiseaux et chez les reptiles. C'est ce qu'on a à la base du cerveau, ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. C'est un peu compliqué, noyaux gris centraux. C'est des toutes petites structures qui sont responsables de tous nos comportements automatiques, non conscients. Quand vous marchez, par exemple, ce que nous faisions avec Roger Paul, on se promenait et on avançait normalement, on marchait et on pouvait deviser. Nous échangions des propos l'un avec l'autre.
La marche est complètement
elle est
automatique.
Elle est bien automatique et on ne s'en rend pas compte. On n'y prête pas attention. Eh bien, ça, c'est géré par ces petites structures-là. Alors que si je décide de mimer une marche particulière, par exemple, si je veux imiter Charlot, par exemple, eh bien, à ce moment-là, c'est plus une marche automatique non consciente. Je fais consciemment, j'essaye d'imiter comment marche Charlot. Et à ce moment-là, c'est conscient, ça n'est plus automatique. À ce moment-là, c'est pris en charge par une partie plus noble du cerveau, qu'on appelle le cortex, qui est à la périphérie du cerveau, notamment sa partie antérieure. Et il y a un dialogue permanent entre ces petits noyaux gris centraux responsables du comportement automatique de la marche et le cortex frontal qui joue un rôle dans tous les comportements qui sont non automatiques et conscients.
Dialogue donc entre l'automatisme et le conscient. Roger Poiledroit, on a aussi cette question du rythme. Marcher, tous les philosophes le savent, et vous en particulier, marcher fait aussi avancer nos pensées. Enfin, on avance avec le corps. Il y a quoi ? Ça donne un rythme à nos pensées, un rythme différent, à votre
avis ? Oui, il y a bien évidemment une question de rythme. Il y a une question, et Ivagine le montre, d'intensification possible de nos idées par la marche. C'est-à-dire que, étant en quelque sorte occupé par les automatismes de la marche, le cerveau, dans sa partie centrale, libère dans sa partie supérieure la capacité peut-être de, voilà, d'avoir des idées nouvelles, de se vider la tête, mais pour mieux la remplir. Mais je crois surtout que le maître mot, c'est l'idée d'un déséquilibre qui fait avancer.
Un déséquilibre qui fait avancer. Apprendre mot à mot, hein, dans le corps, on est en déséquilibre quand on marche,
mais oui,
c'est ça.
Et cela est le point commun entre la marche physique et ce que j'appelle la marche mentale, celle des idées, parce que dans notre bipédie, nous avons cette grande particularité d'avancer en faisant une sorte de petite chute qui est amorcée, qui ensuite est arrêtée, sinon vous allez tomber, mais qui est provoquer à nouveau, sinon vous ne pouvez pas avancer. On avance perpétuellement dans une chute provoquée, retenue, dans un déséquilibre permanent qui nous permet d'aller quelque part. Eh bien, dans le langage, c'est un peu la même chose. On doit apprendre aussi à attendre la suite de la phrase. On avance mot à mot comme on avance pas à pas. Et si tout d'un coup, si je m'arrêtais, vous voyez, ce suspens fait que la phrase tombe, le sens s'écroule, et il y a donc cette continuité qui est aussi sur des formes de déséquilibre, et surtout, et enfin, lorsque nous pensons, nous avançons de la même manière par une série de petits déséquilibres, et surtout la pensée philosophique. En quoi consiste-t-elle essentiellement ? À déstabiliser nos certitudes, à mettre en cause nos convictions, à déséquilibrer d'abord, au risque de le faire chuter, ce que nous croyons le plus vrai, le plus simple, et à interroger ces convictions. Et du coup, nous avons souvent l'impression que ça va tomber, que tout va s'écrouler, nous avons des hypothèses.
Il y a un risque, hein, oui,
il y a un risque, évidemment, hein, il y a un risque de chute de la pensée, comme il y a un risque de chute physique dans la marche. Et cela m'a conduit à l'hypothèse, finalement, que notre réflexion, quand nous avons l'impression d'avancer dans une idée, de progresser dans un raisonnement, de cheminer dans une démonstration, que toutes ces manières de nous exprimer ne sont pas simplement des métaphores, mais probablement les indices d'un ancrage dans notre corps et sa manière de se déséquilibrer physiquement dans la marche, pour avoir finalement un mouvement semblable d'avancer dans les idées par suite de petits déséquilibres.
Et du coup, je m'étonne un peu moins autour de la question « Pourquoi marcher nous fait penser ?» que vous m'ayez proposé, Roger-Paul Droit, une drôle de piste musicale, comment dire, un peu inversée, mais qui va aussi nous faire penser et un peu marcher, à tous les sens du terme.
Pour nous déséquilibrer à nos tours.
Et voilà, on écoute tout de suite Ben Mazuet qui, lui, pense marcher pour arrêter de penser. Vous me suivez ? Quand je marche, Ben Mazuet sur RFI.
Oula. Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis, sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau, ça va être nul. Et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. Je vais sourire. Stop, ça y est,
j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend, tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon.
Pardon, tant pis, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, nous dit Ben Mazuet, Roger Paul-Droit. Vous qui dites que justement, marcher fait penser, penser fait marcher.
Bien sûr, alors ça a l'air d'être absolument l'opposé. Nous disons, et en particulier je dis, que lorsque nous pensons, c'est comme une marche mentale, et lui nous dit, je vais arrêter de penser et je vais aller marcher. Donc on a l'air d'être tout à fait aux antipodes. En même temps, je crois que c'est pas fromage ou dessert.
Mais oui.
Si vous voulez, c'est pas comme ça absolument exclusif l'un de l'autre. Il a raison de dire que on peut rompre avec une sorte comme ça de rumination mentale, d'excès de soucis.
Et d'excès de pensées qui ne vont nulle part, enfin qui tournent un peu en rond.
Voilà, ceux qui tournent en rond. Et alors, je vais aller courir, marcher, m'aérer, me vider la tête, cesser de penser. Et Ivagide raconte aussi comment il lui arrive, dans une recherche scientifique, d'aller marcher parce qu'il est un peu dans la surchauffe.
Bloqué.
Un moment bloqué, voilà. Mais cette manière de se vider la tête ou de cesser de penser, je crois, et c'est comme ça que ça pourrait peut-être réconcilier les points de vue opposés, je crois que c'est une manière de préparer de nouvelles pensées. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait le vide, mais heureusement, on continue à récupérer sa tête. Et,
de nouvelles pensées ou des manières de penser autrement, de prendre des chemins
exactement.
De traverse, finalement,
c'est-à-dire
dans nos pensées.
Ce qui se vide dans un premier temps pendant la marche et l'exercice physique, dans le cerveau, peut laisser place à l'émergence de pensées nouvelles, de ça je ne l'avais pas vu, tiens je vois les choses autrement, et cette aération finit par procurer à la possibilité d'émergence de nouvelles idées.
Ivagide, quand dit le neurologue que vous êtes, auteur donc de ce dialogue avec Roger Paul-Droit, je marche donc je pense.
Mais il a tout dit comme d'habitude, donc effectivement,
c'est une respiration.
C'est ça.
Est-ce que ça pourrait être une sorte de respiration pour le cerveau? Enfin, je le dis peut-être très mal,
non.
Mais d'aller marcher, ça vous va pas non plus.
Non,
ça.
Respiration pour le cerveau, j'aime pas trop. Non, ça fait un peu mécanistique, mais
d'accord.
C'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué.
Mais
que ça,
en revanche, ouais. Je pense tout à fait exact. C'est-à-dire, le problème de penser, c'est bien. On pense tout le temps, en fait, on s'en rend pas compte.
Bien
hein.
Sûr.
Notre cerveau fonctionne en permanence, et vite. Hein. Mais ce n'est pas toujours conscient. Alors, le problème, si vous voulez, dans la pensée du philosophe ou la pensée du scientifique ou du médecin ou de n'importe qui d'ailleurs, c'est la créativité. C'est de penser quelque chose de nouveau,
c'est ça.
C'est-à-dire d'original et qui a un sens et donc différent. Donc, ce que tu as dit, je pense que c'est très astucieux. C'est exactement, ce type s'est vidé la tête et finalement, ça l'oblige à penser différemment. Et je voulais simplement vous dire une chose, puisque tout ça a été dit et redit. Ce que nous avons essayé de faire tous les deux, c'est en fait, une fois qu'on a dit ça, je pense donc je marche ou je marche dans ma pensée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut concilier ces deux points de vue et voir comment ça se passe dans le cerveau?
C'est ça.
Et on a essayé, c'est assez hypothétique, mais enfin c'est fondé sur des observations et sur des faits scientifiques validés, d'essayer de trouver les chemins qui nous amènent à marcher, parce qu'on connaît assez bien la physiologie de la marche, et savoir s'il y a une relation avec la pensée et là, c'est peut-être un peu plus hypothétique, et nous avons fait des propositions sur la physiologie de la marche et de la pensée et leurs relations.
Absolument, les relations physiologiques entre la marche et la pensée, à lire non pas en marchant mais en s'arrêtant pour le lire, et à lire aussi avec les yeux puisqu'il y a vos croquis, vos petits dessins. Yves Agile, autour de la question pourquoi marcher nous fait penser, mais aussi créer, vous l'avez dit, du neuf. Quel lien entre la marche et la créativité? C'est l'éclairage du paléo-anthropologue Pascal Pic, auteur lui aussi d'un très bel essai sur la marche, que vous citez d'ailleurs dans cet ouvrage, Sauver le nomade qui est en nous. On écoute Pascal Pic.
Les psychologues se sont dit, regardons l'impact de la marche sur la créativité. Donc ils ont fait des tests comme, très scientifiques, et on s'aperçoit que les personnes qui marchent, hommes et femmes, et notamment ensemble, il y a des problèmes difficiles à régler en termes de recherche, ou de management, ou de marketing, tout ce que vous voudrez, tous les aspects de nos professions, et bien on s'aperçoit qu'il y a 60% de créativité en plus pour les personnes qui sont aller marcher.
Quand on marche, ça libère quelque chose?
Ça libère notre pensée, ça nous permet de faire d'autres associations, ça nous permet aussi de libérer des contraintes, parce que quand on bute sur un problème, on bute, c'est comme une mouche sur une vitre. Franchement, moi je suis chercheur, il y a des trucs. Alors, au bout d'un moment, il faut un petit peu lâcher, faire confiance à ses pieds, et partir comme ça. Et Darwin, le grand Charles Darwin, tous les jours, il marchait. Il appelait ça le chemin de sable, le sand walk.
Oui, faire confiance à ses pieds, hein, vous
Darwin,
dites.
Darwin, c'est une pensée qui a émergé avec la marche.
C'est-à-dire, avec les pieds.
Et avec les pieds, il lisait beaucoup. Mais pour que ça se décampe, pour que ça se confirme, vous savez, c'est quoi la marche? C'est comme le langage. Vous avez un début et une fin. Vous partez, vous allez quelque part. Et en plus, vous pouvez faire des détours, ce qu'on appelle les récursivités. Etc. En fait, la structure de la marche, c'est la structure du langage, et le langage est lié à la pensée. Tout ça, cognitivement, ce sont exactement les mêmes fonctionnements.
Yves Agide, alors bien sûr, vous l'avez dit et on le répète, hein, finalement, on ne marche pas avec ses pieds, on marche avec son cerveau. On ne pense pas non plus avec ses pieds, j'imagine, on pense aussi avec son cerveau.
Bien, oui, bien sûr. Il y a quelques personnes, malheureusement, qui...
qui pensent avec leurs pieds, hein, c'est ça.
C'est rare, hein, c'est rare.
Heureusement. Est-ce que, Roger Paul-Droit, est-ce qu'en marchant, vous avez parfois eu, alors outre avec Yves Agide, mais de sortes d'illuminations ou de petits eurekas ou de... c'est vrai que ça nous arrive à chacun d'entre nous. Est-ce que vous pourriez nous le...
Je ne saurais dire si j'ai jamais eu une illumination
au sens...
Oh si,
moi qui vous ai lu, je peux le dire.
Au sens propre du terme, mais il m'arrive effectivement... d'avoir, et plus fréquemment en marchant que sans bouger, quelques idées que j'ai le sentiment de ne pas avoir autrement, c'est-à-dire qui me saisit, qui me tombe dessus, qui surgit, émerge. Alors, dans ce cas-là, il faut essayer d'attraper une sorte de petit filet à papillon, si vous voulez, pour qu'elle ne s'envole pas, qu'elle ne disparaisse pas, dissoute dans l'air. Et puis, essayer de voir ensuite, peut-être à tête reposée, comme on dit, ce qu'il y a dedans, cette idée de la décortiquer, de la déplier ou de la faire grandir. Enfin bon. Mais oui, effectivement, je pense que le fonctionnement de notre esprit peut être, bien évidemment, tout aussi intense. Il ne faut pas non plus caricaturer. Il peut être tout aussi intense allongé ou immobile ou dans un lit. Mais il est autre lorsque nous sommes en mouvement. Ce qu'on dit bien avant nous, des tas et des tas de philosophes. Il y a bien sûr les philosophes de l'Antiquité qui, dans un seul et même mouvement, marchent, discutent et essayent de réfléchir tout en dialoguant. Et c'est une habitude culturelle des Grecs, évidemment, on le sait, à travers Socrate, à travers les déambulations d'Aristote, les péripatéticiens, vous savez, péripatein en grec veut dire se promener. Ce sont des gens qui marchent en pensant et en philosophant. Mais cette tradition, elle s'est conservée chez Montaigne, par exemple, qui dit qu'il ne peut pas avoir de pensée sans bouger les jambes. On a vu au début de l'émission Kierkegaard dire la même chose, mais Rousseau en dirait autant. Nietzsche, plus encore, qui dit qu'il ne faut pas faire confiance à la moindre pensée à laquelle le muscle n'ait pas été à la fête en même temps. Bon, il faut, je crois aussi, être un peu distant ou un peu prudent par rapport à ces affirmations. Elles sont vraies, elles sont plus nombreuses chez les philosophes, finalement, que dans d'autres disciplines ou corps de métier, mais il ne faudrait pas en déduire qu'il faut nécessairement aller faire de la marche
pour devenir philosophe ou pour penser. Il y a des contre-exemples majeurs.
Ça ne marche pas dans ce sens-là, oui. Même si vous avez cité des philosophes du passé. On peut citer aussi le regretté Axel Kahn, qui était un grand marcheur.
Sûr, oui.
Nombre d'écrivains voyageurs, jusqu'à Sylvain Tesson, ou récemment l'économiste et philosophe sénégalais Félouine Sarr, qui parlait de ces marches, justement. Qu'est-ce qui se passe, Yvagide ? Moi, je sais que rien que quand il faut que j'écrive une émission et que ça ne vient pas, c'est pas une grande écriture, une grande pensée, mais je me lève, je fais quelques pas simplement, et ça se remet en route autrement. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous expliquer ?
Ben, c'est probablement très complexe, parce que quand on est dans la confusion intellectuelle, parce que on est en train d'aborder trop d'idées disparates, on est embrouillé. Donc le seul fait de s'arrêter et quelques secondes peut faire. Mais je pense que l'idée que nous avions que la marche, comportement automatique, subconscient, non conscient, facilite la pensée différente qui est consciente et qui n'est plus automatique, ça a un sens. Et on a d'ailleurs une preuve, cette question d'observation de tous les jours. La marche est un comportement automatique, on l'a dit. Mais il y a d'autres comportements automatiques. Interroger les gens qui prennent une douche. Les gens disent qu'ils ont des idées quand ils prennent les douches. Ils ont des idées quand ils font le ménage ou quand ils font la vaisselle. À quoi pense une personne qui fait la vaisselle, par exemple, qui lave des assiettes, etc. Bon, c'est quelque chose d'automatique. Ces comportements, entre parenthèses, automatiques et non conscients, sont des comportements qui ont été appris, surappris. Donc on les fait sans y penser.
Et donc laisse la place dans notre cerveau pour d'autres
pensées. Voilà, et
d'autres
le reste
pensées.
Du cerveau, le cortex cérébral dont je parlais un instant, peut flâner, vagabonder, et éventuellement, des multiples idées non conscientes peuvent, au-dessus d'un certain seuil, sortir brusquement.
Roger Paul.
Contre-exemple, parce que je ne voudrais pas que l'on pense, ce qui est juste, mais qu'il n'est obligatoire de bouger, de marcher pour avoir des idées. Contre-exemple majeur, chez les philosophes en tout cas, Hegel. Friedrich Hegel, grand philosophe devant l'éternel, mais en tout cas, cul de plomb, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire absolument immobile. Toutes les représentations qu'on en a, il est à son bureau, où il est en train de faire cours à sa chaire, etc. Et il n'est pas du tout connu pour avoir été un promeneur ni un philosophe de la marche. Sauf que c'est quand même le seul penseur qui ait inventé la marche de l'histoire. La marche de l'esprit, la dialectique comme marche interne des idées et mouvement de surgissement du devenir des concepts à l'intérieur des notions elles-mêmes. Et donc, ce que j'en tire, c'est un peu d'eau à mon moulin ou au moulin de mon hypothèse d'une marche mentale. Il y a toutes sortes de raisons de penser que la marche physique stimule les idées, mais on peut penser également, et ce n'est pas forcément du tout contradictoire, que la pensée constitue une marche.
Est une marche en elle-même.
Est une marche en elle-même.
La marche de la pensée, effectivement.
Voilà, que nous avançons dans les idées de la même manière, ou peut-être avec les mêmes genres de processus cérébraux que nous avançons physiquement. Et c'est l'hypothèse que j'ai voulu tester auprès de mon camarade neurologue. Voilà, parce que je lui disais, voilà, ce que tu dis par rapport à la marche physique du cerveau, dans le cerveau, est-ce que, même si ce ne sont pas les mêmes parties du cerveau, même si ce n'est pas les mêmes, du tout les mêmes muscles ou les mêmes parties qui sont, est-ce que des processus communs pourrait éventuellement confirmer que cet ancrage de la pensée dans le mouvement physique de la bipédie est une hypothèse vraisemblable. Est-ce que c'est un petit délire de philosophe ou est-ce que ça a un ancrage pour le neurologue ?
Yvagide, ça a bien un ancrage. Pour le neurologue, on le découvre dans cet ouvrage « Je marche, donc je pense ». Et moi, je me suis demandé à quoi pensez-vous quand vous marchez, avant de vous reposer la question, quand j'ai pas le droit à Yvagide. Je vous propose d'écouter les pistes de réponse d'un autre grand marcheur qui marche dans sa tête comme avec ses pieds, le sociologue David Le Breton, auteur marcheur et auteur de Marcher, éloge du chemin et de la lenteur. Tout récemment, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. On écoute David Le Breton.
quand on commence à marcher, quand on est dans la forêt, on a l'esprit qui bat la campagne. C'est-à-dire qu'on est à nouveau dans une disponibilité au monde qui fait qu'on résout les problèmes sans plus y penser. Et ça m'arrive souvent d'ailleurs, en marchant, de trouver des pistes pour un article que je suis en train d'écrire, ou pour un livre que je suis en train d'écrire, ou pour un cours que je vais donner bientôt, ou pour prendre une décision sur un voyage que j'ai en tête. Voilà. La marche est une merveilleuse matrice, finalement, pour penser, pour réfléchir dans la paix, dans la tranquillité.
Et justement, à quoi vous pensez, oui, quand vous marchez, oui. David Le Breton ?
À quoi on pense ? On pense à tellement de choses, parce que c'est une libération, la marche. Il y a plein de souvenirs qui viennent nous hanter. Il y a des gens qu'on a perdus, par exemple, qui ne sont plus là et auxquels on pense, et on se demande comment ils auraient vécu cette marche, s'ils auraient été avec nous, comment on leur aurait raconté. C'est un imaginaire en permanence, un imaginaire très flamboyant finalement de marcher, parce que vous voyez un arbre qui a une forme insolite, ça vous fait penser à plein de choses, vous allez peut-être même commencer à vous faire peur ou au contraire à vous émerveiller. On est en permanence dans une espèce d'ébullition intérieure qui est éminemment propice pour penser à plein de choses et pour justement résoudre des tas de problèmes qui nous échappent dans les vies ordinaires.
Yves Agic, vous voulez réagir à ce que vient de dire David Le Breton ou nous dire un peu à quoi pensez-vous, vous, quand
non,
vous
marchez ? Non, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas négligé dans le livre. C'est qu'évidemment, si vous marchez en plein dans le désert, sous un soleil de plomb, c'est pas pareil que Monsieur Le Breton qui se balade dans la forêt de manière très agréable. Mmh. C'est ce que nous avons fait. Effectivement, l'environnement, il faut savoir que la marche, c'est pas seulement la locomotion, l'équilibre et la posture, c'est aussi l'environnement. Ouais, nous avons des perceptions par la vue, par l'odorat, par les bruits, etc. Et toute cette musique de la vie, elle est très importante. Mais je voulais rajouter quelque chose qui confirme tout à fait ce qu'a dit ce monsieur, que nous avons bien discuté tous les deux d'ailleurs, c'est que si vous partez avec un questionnement, c'est le cas pour moi quand je dois faire une conférence ou exactement pareil, ou d'écrire un article scientifique, on cherche les solutions, et ou d'une manip à faire, une expérience à faire, à ce moment-là, c'est plus fort que vous. Pendant la promenade, vous allez nécessairement penser à ça. Et ce qui fait d'ailleurs que quand on se promène en famille, parfois, on a le reproche disant « Mais tu parles pas, tu as l'air distrait, à quoi tu penses ?» Ben oui, c'est le questionnement qui revient de manière non consciente, et tout d'un coup, les idées qui arrivent.
C'est ça, et quand on revient et qu'on arrête la marche, on a peut-être des pistes de solutions, ou des nouvelles pistes de solutions.
Oui, parfois on est déçu, Marc.
Et oui, ça marche pas toujours. La pensée en marchant et marcher en pensant. Autour de cette question des liens entre la marche et la pensée, je propose d'écouter une autre marche musicale cette fois-ci. C'est celle de Camille qui, elle, ne fait pas tout en même temps. On l'écoute tout de suite sur RFI. Quand je marche.
Je marche quand je dors quand je chante, je m'abandonne quand je marche droit. Quand je chante nu. Et quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus.
Camille sur RFI, quand je marche. Autour de la question pourquoi marcher nous fait penser. Pourquoi marcher aussi nous fait avancer, on l'a dit, et fait avancer notre pensée, mais nous ouvre aussi, j'ai envie de dire, j'ai pas le droit, à une autre présence au monde qui nous fait peut-être beaucoup, beaucoup de défauts aujourd'hui, où l'on marche peu et où on est beaucoup penché, le cou penché sur nos écrans.
Oui, David Breton, qui est un grand marcheur et qui réfléchit aussi sur la marche, le disait très très bien, c'est cette question de la disponibilité au monde. Et il est vrai que marcher dans la nature, dans des forêts, au bord de mer, dans la montagne, peu importe, ou la campagne, d'une certaine manière évidente, nous reconnecte à des cycles cosmiques ou à une posture, un lien que nous avons à la Terre et à l'environnement qui est tout à fait autre que l'artifice de la vie technique. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose dans tout cela qui est aussi peut-être plus étrange, qui est le rapport d'une disponibilité entre l'extérieur et notre intériorité. Parce que de l'extérieur vont surgir des formes, des spectacles nouveaux, des sensations, des impressions, etc. Mais on pourrait se dire, eh bien, arrêtons tout, ne marchons plus, restons en méditant dans une pièce close, vont surgir, mais cette fois du dedans, des souvenirs ou des formes ou des idées que nous pouvons soit saisir, soit laisser passer. Et il y a ce lien, finalement, je crois, profond entre la possibilité d'avancer à la fois dans le monde extérieur, mais en même temps dans notre propre intériorité. Et est-ce qu'on se promène dans la forêt ou est-ce qu'on se promène en soi-même ? C'est juste une question qui a l'air poétique, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas, pour une part, aussi métaphysique.
Voilà. Absolument, c'est une question qui nous donnerait envie de continuer. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Alors c'est sur cette question-là que je vais vous faire demander de conclure, peut-être Yves Agide, ce rapport entre finalement l'intérieur et l'extérieur quand on marche.
Je vais prendre le côté péjoratif des choses.
Ouais.
D'abord, si on ne peut pas marcher, par exemple quelqu'un qui est en prison, cet enfermement, c'est terrifiant. Parce que les pensées sont là, mais bien elles sûr. Risquent de tourner en rond, d'angoisser, de déprimer. Et la deuxième chose, c'est la personne âgée qui n'arrive pas bien à marcher. On l'a dit au début de l'émission. Pour aller vite, il faut lui permettre de marcher, non seulement pour améliorer son corps, améliorer le programme de la marche qui est dans son cerveau, lui permettre de se pérenniser, mais aussi pour avoir une vie sociale.
Bien
et
sûr.
Donc de retourner dans la société, dans la vie.
Avec l'extérieur. Merci infiniment à tous les deux. On n'a pas fini de parler, de s'écouter, de dialoguer, de penser et de marcher. Je ne peux que renvoyer sur votre ouvrage qui se lit vraiment très agréablement. Je marche donc, je pense. Signé donc Roger-Paul Droit et Yves Agide, paru aux éditions Albin Michel. Merci à tous les deux. Revenez nous faire penser, marcher, avancer et parler un peu, pourquoi pas.
Quand vous voulez, merci beaucoup.
Merci.
À vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, pour tenter de nous mettre dans la tête d'une abeille. Autour de la question, à quoi pensent les abeilles ? Pas du tout comme nous, mais ça vous réserve quelques surprises, notamment sur leur fantastique capacité cognitive. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Merci pour votre curiosité. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, en marchant, en pensant, en écoutant, en rêvant. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des actualités.